France Culture.
France Culture, avec philosophie, Géraldine Mosna-Savoie.
1980, 11 ans ont passé depuis la rencontre entre le philosophe Gilles Deleuze et le psychanalyste Félix Guattari. 8 ans depuis la parution et le scandale de leur anti-Œdipe. 8 ans durant lesquels Deleuze et Guattari ont continué à échanger, créer, expérimenter des concepts, rhizomes, devenir, nomade ou ritournelle. 8 ans à fabriquer des plateaux. 1000 plateaux, c'est le titre de leur œuvre que nous allons arpenter toute cette semaine, moins polémique que l'anti-Œdipe mais peut-être plus créative. En cette année du centenaire de Deleuze, est-ce d'ailleurs toujours le cas? Ce livre fonctionne-t-il encore? Et à défaut d'être parfaitement compris ou totalement aimé, quel effet vous fera-t-il?
L'opinion sur la philosophie, c'est qu'elle s'occupe d'universaux. L'opinion sur la science, c'est qu'elle s'occupe de phénomènes universels qui peuvent toujours se répéter, etc. La philosophie ne s'occupe pas de l'un, de l'être, du... Tout ça, c'est des bêtises. Elle s'occupe de singularité aussi. Qu'est-ce que c'est? En fait, on se trouve toujours dans des multiplicités. Des multiplicités, c'est des ensembles de singularités. La formule de la multiplicité ou d'un ensemble de singularités, c'est N-1. C'est-à-dire le 1, c'est toujours ce qu'il faut soustraire. La philosophie ne s'occupe pas d'universaux. Il y a trois sortes d'universaux. Il y a des universaux de contemplation, les idées, avec un grand I. Il y a les universaux de réflexion. Il y a les universaux de communication. C'est le dernier refuge de la philosophie des universaux. Habermas, il aime ça, les universaux de communication. Donc la formule, c'est N-1. Supprimer l'unité, supprimer l'universel.
Bonjour David Lapoujade.
Bonjour.
Vous êtes professeur de philosophie à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, auteur de l'ouvrage Deleuze, les mouvements aberrants, paru aux éditions de Minuit. On vous doit aussi plusieurs éditions de textes de Gilles Deleuze, comme ses cours sur Spinoza ou sur la peinture. Alors, vous aviez inauguré la série que l'on avait consacrée au premier volume de Capitalisme et schizophrénie, donc c'était l'anti-Œdipe. Je vous avais demandé, est-ce que l'anti-Œdipe est le meilleur moyen de rentrer dans l'œuvre de Deleuze? Alors, je vous avoue, je n'ai pas réécouté votre réponse, je ne m'en souviens plus, mais qu'est-ce que vous pensez de 1000 plateaux, alors, pour entrer dans l'œuvre de Gilles Deleuze?
Ben, l'avantage de 1000 plateaux, c'est qu'on peut entrer par n'importe quelle voie, par n'importe quel bout. C'est un peu ce que Deleuze et Guattari disaient au sujet du terrier chez Kafka. On peut entrer par plusieurs voies. On n'est pas obligé de commencer par le début et de suivre l'ensemble du livre pour aller jusqu'à la fin. On peut lire selon les plateaux, puisqu'ils appellent ça des plateaux, plutôt que des chapitres. Et on peut prendre un plateau, le parcourir, et puis laisser de côté, prendre un autre plateau qui ne suit pas immédiatement le précédent. Et voilà, donc c'est un livre ouvert.
Est-ce que c'est vraiment la suite de l'anti-Œdipe? On peut penser que l'anti-Œdipe était un livre très contre la psychanalyse, contre une certaine manière de faire de l'anthropologie, contre une certaine manière de faire de la philosophie. On a entendu d'ailleurs dans cette archive, dans cet extrait de l'abécédaire, la dimension presque révolutionnaire de la manière de faire de la philosophie pour Gilles Deleuze. Donc l'anti-Œdipe, très contre. Est-ce que 1000 plateaux, c'est plus créatif, plus positif? C'est-à-dire que cette manière de faire de la philosophie, elle n'est pas juste un rejet de ce qui a été fait jusque-là?
Alors déjà, je pense que l'anti-Œdipe n'est pas exclusivement un livre contre. Il y a aussi une théorie du capitalisme, une théorie du désir, de la manière dont le désir peut être libéré de ce qui empêche son expression. Donc il y avait déjà évidemment des aspects profondément positifs. Et Deleuze a d'ailleurs toujours dit que un livre contre ne valait pas la peine d'être écrit. Il faut toujours que ce qui est contre soit second par rapport à ce qui est pour et en faveur de la vie, du désir, etc. 1000 plateaux est un livre alors qui se raccorde à l'anti-Œdipe. Il y a comme une sorte de chapitre d'adieu à la critique de la psychanalyse. Un des plateaux est consacré à une critique de la psychanalyse, mais elle n'est plus menée au nom des mêmes revendications. C'est-à-dire que dans l'anti-Œdipe, c'était au nom du désir qu'était menée la critique de la psychanalyse. Dans 1000 plateaux, c'est au nom des multiplicités. C'est-à-dire, et ils prennent un cas particulier, c'est le cas de l'homme au loup qui qui rêve ou qui fantasme une horde de loups. Et l'épisode est assez comique dans Mille Plateaux parce que il montre comment Freud réduit cette horde à n'être plus qu'un seul loup et à manquer la dimension des multiplicités qu'il avait pourtant dégagée par ailleurs.
Alors voilà, on y est. David Lapoujade, c'est ça quand même, on va dire, même si je suis sûre que Deleuze et Guattari riraient du fait que je dise ça, mais c'est quand même ça la grande thèse de Mille Plateaux. Si le désir était vraiment l'objet de l'anti-Œdipe, les machines désirantes, là, Mille Plateaux, le grand sujet, c'est la multiplicité, et c'est exactement ce qu'on a entendu dans cette archive de l'ABCDR, qui a été enregistrée bien après, donc 8 ans plus tard, en 88, Deleuze s'est suicidé en 95, on a pu découvrir l'ABCDR à ce moment-là, c'était la condition de diffusion de cet ABCDR. Ça veut dire que cette idée de la multiplicité, déjà, ça veut dire quoi ? Elle nous semble plus éloignée. Moi, j'imagine, je lis un livre sur le désir, je suis tout de suite concernée, portée. Un livre sur la multiplicité, je me dis, voilà, en fait, c'est une entreprise qui parle à des philosophes où on se dispute sur le fait que la philosophie soit adossée à l'un ou au multiple. En quoi c'est plus que ça, alors ? En quoi cet objet, il est important ?
Alors déjà, le désir dans l'anti-Œdipe se définissait comme des multiplicités, mais cette dimension était pas, disons, était peu parcourue, peu pensée pour elle-même. Mille Plateaux, c'est un véritable défi de ce point de vue. C'est une tentative de penser exclusivement à l'aide de multiplicités. C'est-à-dire, comme il le dit dans l'extrait que vous avez choisi, c'est de penser la formation du monde, la formation des sociétés, la formation des formes de vie, la formation des formes géologiques, à partir des seules multiplicités. Rien que, donc, sans recourir à un concept qui les unifierait de l'extérieur. Donc, comment vont faire des multiplicités pour former un monde ? Donc, on part de multiplicités qui sont indéfinies, pour voir comment le monde dans lequel nous vivons se forme, se déforme, se transforme. Il y a quelque chose qui rappelle un petit peu le Timée de Platon, c'est-à-dire
Platon... Expliquez pour les auditeurs, voilà, les auditeurs auditrices qui n'ont pas en tête le Timée de Platon.
Oui, le Timée de Platon, c'était une tentative extraordinaire de Platon de montrer comment le monde pouvait être composé à partir d'un modèle intelligible réalisé par un démiurge, et il s'agissait d'explorer et d'exposer la manière dont le monde est composé par un démiurge qui procède selon un modèle. Et là, c'est un projet inverse, mais évidemment pas sans analogie avec celui de Platon, c'est-à-dire montrer comment se compose l'intégralité du monde sans recourir à aucun modèle, à aucune forme d'unité supérieure, à l'aide des seules multiplicités.
Donc sans démiurge.
Sans démiurge, sans idée préexistante, sans modèle préexistant.
Sans universaux aussi. Comme il le dit.
Sans universaux, à l'aide des seules multiplicités. Comment on fait pour construire l'intégralité de ce monde à l'aide de ces seules multiplicités? C'est ça le défi de Mille Plateaux. C'est la raison du titre d'ailleurs. Ça s'appelle Mille Plateaux.
Oui, parce qu'il y en a 15. Je le dis pour les auditeurs et auditrices, il y a 15 plateaux, dont une intro et une conclusion.
Il y a 15 plateaux, mais l'idée c'est que, c'est un peu une sorte de plaisanterie entre eux, parce que ils ont écrit en partie ce livre dans le Limousin où il y a le plateau des 1000 vaches.
Ah, voilà. Effectivement, on se disait que ce titre faisait penser à ça.
Voilà. Donc, Mille Plateaux, c'est l'idée que les plateaux sont une multiplicité eux-mêmes. Il y a une multiplicité de plateaux et c'est l'objet du livre.
Pourquoi, selon vous, David Lapoujade, et est-ce que Deleuze ou Guattari l'expliquent à un endroit, cette question des multiplicités, elle leur est apparue tout à coup de manière centrale ? Et pourquoi d'ailleurs cette question des multiplicités, elle est centrale ? Au-delà de... imaginez, David Lapoujade, mettez-vous par exemple à ma place, la question de savoir comment est formé le monde ne m'intéresse absolument pas. Je dis pas que c'est vrai ou pas. Imaginons. En quoi me dire que cette question-là, elle est cruciale, pourrait m'intéresser ? Avec quel argument vous pourriez me convaincre ?
Je ne sais pas si je parviendrai à vous convaincre, mais disons que l'idée principale pour eux, c'est que le fond de la réalité, le fond du réel, est composé de multiplicités. Et que donc, si on considère un corps, quel qu'il soit, le corps de la Terre, les corps géologiques qui peuplent la Terre, les corps organiques qui composent la vie, les corps sociaux multiples qui composent l'histoire universelle de l'humanité, bah, tous ces corps sont composés de corps plus petits, de corps moléculaires qui vont une société est se compose à partir de l'ensemble des individus qui la peuplent, et un individu est lui-même composé de l'ensemble des éléments différentiels qui traversent sa pensée, qui affectent son corps. Donc, si on essaye de remonter vers ce qui serait la source de toutes ces réalités, eh bien, on tomberait sur des éléments qui n'obéissent à aucune forme d'unité, à aucune forme de centralité.
Ni d'ordre, par exemple.
Ni à aucun ordre. Et si bien que la question qui se pose pour cette philosophie, c'est comment ces multiplicités en sont venues à composer des réalités ordonnées, organisées, etc.
Ça nous pousse presque aussi à voir le monde tout à fait différemment. C'est-à-dire que Deleuze et Guattari nous proposent presque une philosophie de la perception. Quand on lit Mille plateaux, on peut regarder autour de soi, on peut se regarder dans un miroir, on peut regarder le monde, considérer des événements politiques d'une toute autre manière, ou même un paysage. Voilà, on regarde par sa fenêtre. Tout est différent, c'est-à-dire que tout devient beaucoup plus effectivement moléculaire, tout n'est plus figé en termes d'objets. Vous, David Lapougette, vous existez en tant que tel, mais j'ai l'impression, je peux vous voir traverser par des lignes de fuite. Enfin, vous voyez, il y a quand même un truc même de l'ordre du bouleversement de la perception, et puis aussi de la manière dont on se perçoit soi-même. Il y a quelque chose qui est oublié de ce côté-là.
Là où vous avez raison, c'est que je crois... Si on devait essayer de concevoir la philosophie comme une caméra et si la question était de savoir où placer la caméra, je pense que place la caméra au niveau de la formation des réalités, c'est-à-dire au niveau des processus. Comment une réalité, non pas comment elle existe, mais comment elle se forme, comment elle se développe, comment elle se transforme. Donc l'important pour eux, c'est de placer la caméra à hauteur de formation, à hauteur de transformation, à hauteur de processus et de métamorphose. Si bien que, effectivement, comme vous le dites, lorsque nous percevons le monde autour de nous, nous percevons des formes existantes, des formes déjà organisées, déjà formées, certaines fixes, voire immuables, et... il s'agit en effet de déplacer la perspective pour descendre en deçà de ces formes organisées, de ces formes arrêtées, fixes, immuables, pour voir comment elles se constituent, et toujours, comme c'était le cas déjà dans l'Antiodipe, comment elles se détraquent, comment elles se transforment, comment elles échappent à leur propre organisation.
Est-ce que ça peut changer non seulement notre manière de voir, de lire un tel texte, mais aussi notre manière de vivre ? Est-ce que vous, par exemple, David Lapougette, vous vivez autrement en Deleuzien grâce à cette caméra-là?
Je pense que les livres de Deleuze et de Deleuze et Guattari sont des livres qui ont pour vocation de changer la vie, de changer la perception, de changer les modes de pensée. Quand Deleuze et Guattari disent qu'un concept est inséparable de percept et d'affect, c'est-à-dire qu'un... Si un concept change une manière de penser, inséparablement, il change aussi la manière de sentir, c'est-à-dire les affects, et la manière de percevoir. Donc, un concept, quand on découvre un concept, que ce soit chez Deleuze et Guattari, ou ce soit chez Descartes ou chez Platon, quand on découvre un concept, ou quand on comprend un concept, ça veut dire aussi qu'on perçoit la réalité sous une forme nouvelle, c'est-à-dire en fonction de ce que le concept nous fait voir, ou nous fait découvrir, affectivement, perceptivement, et sur le plan de la pensée.
Alors, dans Mille plateaux, le grand concept, c'est les multiplicités, je le dis au pluriel, on verra si c'est important ou pas. Et une manière de penser, d'atteindre les multiplicités, c'est le rhizome. On va tout de suite entendre un texte extrait de l'introduction qui concerne les plateaux et les rhizomes.
Un plateau est toujours au milieu, ni début ni fin. Un rhizome est fait de plateaux. Gregory Bateson se sert du mot « plateau » pour désigner quelque chose de très spécial, une région continue d'intensité, vibrant sur elle-même et qui se développe en évitant toute orientation sur un point culminant ou vers une fin extérieure. C'est un trait fâcheux de l'esprit occidental de rapporter les expressions et les actions à des fins extérieures ou transcendantes, au lieu de les estimer sur un plan d'immanence d'après leur valeur en soi. Par exemple, en tant qu'un livre est fait de chapitres, il a ses points culminants, ses points de terminaison. Que se passe-t-il au contraire pour un livre fait de plateaux, communiquant les uns avec les autres au travers des micro-fentes, comme pour un cerveau ? Nous appelons plateau toute multiplicité connectable avec d'autres par tiges souterraines superficielles, de manière à former et étendre un rhizome. Nous écrivons ce livre comme un rhizome. Nous l'avons composé de plateaux. Nous lui avons donné une forme circulaire, mais c'était pour rire. Chaque matin, nous nous levions et chacun de nous se demandait quel plateau il allait prendre, écrivant 5 lignes ici, 10 lignes ailleurs. Nous avons eu des expériences hallucinatoires, nous avons vu des lignes, comme des colonnes de petites fourmis, quitter un plateau pour en gagner un autre. Nous avons fait des cercles de convergence. Chaque plateau peut être lu à n'importe quelle place et mis en rapport avec n'importe quel autre.
Extrait de Premier plateau, introduction Rhizome de 1000 plateaux, donc paru en 1980, lu ici par Nicolas Berger, écrit, le nous qu'on entend, c'est Deleuze et Guattari. Alors, cette introduction, elle est importante non seulement parce que ça va être un guide de lecture pour celui qui ouvrirait ce livre, par cette définition aussi du rhizome et du plateau, mais aussi pour comprendre les conditions de rédaction de ce livre. C'est assez inédit pour un texte de philo d'avoir tout à coup deux auteurs qui nous disent « voilà comment on a écrit, voilà dans quel état d'esprit on a écrit, on a rigolé, on a mis nos noms, mais c'était par habitude ». Ça, c'est assez fort comme geste, David Lapoujade.
Oui, c'est un petit peu dans le prolongement de ce point de vue de l'anti-Oedipe, c'est-à-dire l'idée d'une véritable écriture à deux, qui se relance sur des fragments, qui procèdent par mise en relation de concepts ou de domaines qui, a priori, n'ont rien à voir les uns avec les autres, en fonctionnant par à la fois continuité et télescopage. Donc oui, c'est Rhizome, de ce point de vue, qui était paru d'abord tout seul, avant de constituer l'introduction de 1000 plateaux, se présentait comme une sorte de déclaration contre l'unité du livre, contre l'unité d'un livre qui aurait son début, son milieu et sa fin. L'idée, c'est que un plateau, précisément, c'est ce que dit en partie l'extrait, c'est que un plateau ne doit pas être conçu à partir de sa fin ou d'une fin qui lui soit extérieure. Mmh. Autrement dit, un processus a pour seule fin son propre accomplissement, son accomplissement en tant que tel. Donc, toute fin du processus est quelque chose qui est extérieur au processus. Donc, l'idée, c'est que les processus entrent en relation avec d'autres processus sans qu'il y ait véritablement un début ou une fin. Mmh.
C'est-à-dire, si je vous suis bien, David Lapoujade, ce livre n'a pas été écrit pour obtenir tel effet ou pour faire telle chose, mais vraiment pour rencontrer un lecteur ou pas, pour provoquer du désir, de l'envie, du dégoût, du rejet, des choses comme ça.
Oui, et aussi pour provoquer un autre type de lecture. On disait à l'instant qu'un concept était inséparable de percept et d'affect, c'est-à-dire c'est susciter une autre manière de lire, ne pas prendre le livre depuis son début pour aller jusqu'à son terme, mais pouvoir digresser, s'arrêter, revenir en arrière, changer de plateau.
Qu'est-ce qu'on comprend alors ? Quand même le problème de la compréhension, vous êtes d'accord ? On vous a souvent posé la question, est-ce que Deleuze c'est compréhensible ? Et est-ce d'ailleurs une injonction ? Est-ce qu'on doit comprendre un texte ?
Deleuze disait souvent que quand on lisait un texte de philosophie ou quand on lisait un texte difficile, on pouvait sauter ou passer les passages qu'on trouvait difficiles et reprendre au moment où on se trouvait à nouveau bien avec un texte. Et donc, on peut tout à fait laisser de côté les passages qu'on trouve difficiles et puis y revenir après, parce que la lecture des textes suivants aura permis de dissiper certaines difficultés du texte sur lequel on butait. Donc, une lecture, c'est jamais, sauf dans le cas du roman, qui est un petit peu le modèle de la lecture, où on commence par le début et on va jusqu'au terme. Un livre de philosophie, comme le disait Nietzsche, il est fait de ruminations, de reprises, de retours en arrière, de percées soudaines. une lecture de texte philosophique n'est jamais uniforme.
Et donc là, c'est un livre rhizome. Ils le disent dans le texte, on va venir au fond du texte, même si les conditions de rédaction et les conditions de lecture sont importantes parce que ça redéfinit tout le geste philosophique, mais ça va avec, en fait, c'est pas un à côté, c'est pas en plus que Deleuze et Guattari rédigent d'une certaine manière ou veulent telle ou telle lecture, c'est que ce livre, nous disent-ils, est un livre rhizome. Alors, qu'est-ce qu'un rhizome, David Lapoujade? Ça va avec le plateau, puisqu'il le dit dès le début, le plateau est fait de rhizomes. Ce sont des termes botaniques, mais qu'est-ce que ça change? En quoi c'est important, voilà, le rhizome?
Le rhizome, c'est le concept qu'il substitue au concept d'arbre. Et l'arbre a une longue histoire dans l'histoire de la philosophie, hein. On pense à l'arbre, au fameux arbre de Descartes, qui est l'arbre de la connaissance, et l'idée que les choses commencent avec une racine commune et se déploient à partir de cette racine, suivant des rameaux qui vont donner leurs fruits divers, etc. L'idée de Deleuze et Guattari, puisqu'ils partent de multiplicité et qu'ils ne partent pas d'unité préexistante, ils sont obligés de trouver une logique d'une autre nature que celle de l'arbre. Et cette autre logique, de la même manière que la philosophie empruntée à la botanique avec l'image de l'arbre, ils la trouvent aussi dans la botanique à partir du rhizome. Et le rhizome, c'est le mode de reproduction, par exemple, des champignons ou d'autres types de plantes ou de certaines tubercules.
Alors, par exemple, il y a le chien-dent, l'iris, oui. Le muguet, le nénuphar.
Ben, vous en savez plus que moi sur
Que j'ai une très bonne équipe aussi qui me permet d'apprendre autant de choses.
Voilà, c'est la possibilité. Dans le fond, c'est une sorte de bouturage infini, c'est-à-dire de production qui se fait par déboîtement, par écart, par prolongation, par bifurcation. Il n'y a pas d'unité centrale. Il y a une sorte de déploiement. J'ose même pas dire en étoile, parce que l'étoile renvoie quand même à un centre. Mais c'est une sorte de déploiement qui se fait selon des lignes qui divergent les unes par rapport aux autres et qui se recroisent. Tout le problème pour eux, c'était de trouver justement, quelle logique pouvait correspondre à la possibilité de penser à l'aide de seules multiplicités. Donc cette logique, ils l'ont appelée rhizomatique parce que c'est la manière dont des multiplicités peuvent entrer en contact, se solidifier l'une avec l'autre et puis en même temps se désolidariser plus tard. Cette logique-là, c'est celle du rhizome.
Donc c'est une logique pour eux, le rhizome. Est-ce que c'est une métaphore? J'insiste, hein. C'est important parce que la question
Non, c'est pas
réel...
une métaphore parce que d'une part,
c'est une image.
C'est pas une image, c'est pas une métaphore parce que le fonctionnement du rhizome est réel, botaniquement réel, et il n'y a pas de raison de limiter ce fonctionnement réel aux plantes qui se caractérisent par ce mode de développement. Et la pensée, elle aussi, fonctionne de manière rhizomatique, littéralement et sans métaphore, selon eux. Oui.
Alors, quelles sont les caractéristiques du rhizome, David Lapoujade?
Les caractéristiques du rhizome, je crois que si on veut essayer de comprendre les caractéristiques du rhizome...
Et donc de la multiplicité, c'est-à-dire de la formation de la multiplicité.
Bien sûr. Je crois qu'il faut passer par une notion qui est très importante pour eux, qui est la notion de consistance. Hein. Et la notion de consistance est assez particulière. Dans le fond, la consistance, c'est la solidification d'un ensemble. Alors, si vous prenez... c'est un exemple que Deleuze utilise, mais qu'on retrouve chez un des premiers penseurs de la consistance qui s'appelle Eugène Dupréel. C'est si vous prenez une planche ou un ensemble de planches et des clous, ben vous mettez en rapport les planches et les clous et vous obtenez un ensemble consistant qui va être une caisse de bois. Parce que ces éléments qui étaient épars vont tout d'un coup consister ensemble et former une réalité solide. Donc la consistance implique une certaine solidité matérielle, mais c'est encore plus vrai de l'inverse, si j'ose dire. C'est-à-dire que un ensemble, pour Deleuze et Guattari, sera d'autant plus consistant qu'il parviendra à faire tenir ensemble des termes hétérogènes et instables. C'est-à-dire que plus une relation est solide, stable, fixe, moins elle est consistante, et à l'inverse, moins une relation est stable, moins elle est fixe, plus elle est susceptible de se transformer et plus elle a de consistance parce qu'elle fait tenir ensemble des termes qui sont d'une extrême labilité, d'une extrême fragilité.
Donc, ils sont hétérogènes.
Ils sont hétérogènes et se transforment. Si on arrive à les faire tenir ensemble, exactement comme quand on a une pensée qui nous passe par l'esprit et qui était difficile à obtenir, elle passe, elle se fixe un instant et elle se dissipe, bah, c'est le point de consistance maximum, puisqu'on fait tenir ensemble des termes qui ne parviennent à peine à tenir ensemble. À l'inverse, disons, d'un matériau solide dont la consistance est assurée une fois pour toutes.
Mais là, vous nous avez parlé d'une caisse. Moi, j'arrive très bien à me représenter une caisse. Donnez-moi un exemple, David Lapoujade, d'une consistance inconsistante, d'une certaine manière. C'est-à-dire d'une consistance dont les éléments... Et encore, il faudrait revenir là-dessus, parce que à savoir si pour Deleuze et Guattari, les multiplicités sont créées ou produites par une addition d'éléments, je ne pense pas, vu ce que vous êtes en train de me dire. Donnez-moi un exemple quand même d'une multiplicité hétérogène. Ah, vous faites une grimace.
Non, c'est que c'est pas évident que ça vienne comme ça.
Deleuze et Guattari nous parlent du réel.
Oui, bien sûr.
Alors de quoi parle-t-il là?
Bah, la consistance, c'est la manière dont je vais prendre un exemple qu'on pourrait trouver chez Deleuze et Guattari, mais je suis pas sûr qu'il y figure. Vous avez des habitudes. Je sais pas, vous vous réunissez de manière informelle entre amis, et puis vient le moment où vous décidez de fixer des règles en disant voilà, ces habitudes on va les solidifier dans des règles formelles. Cette sorte de solidification supplémentaire qui ne tient que par des règles. Vous voyez, donc c'est assez fragile et assez, c'était au départ des habitudes, des contractions d'habitudes assez simples. Ben voilà qu'elles se cristallisent ou elles se solidifient dans des règles. Voilà, ça ce serait un exemple, la manière dont en réalité un groupe prend corps. Et cette manière de prendre corps fait que la solidification, la consistance s'accroît. Jusqu'au point où elle peut, d'une certaine manière, devenir paralysante ou devenir... ankylosante.
Voilà, parce que les habitudes, c'est déjà un peu des routines qui peuvent être
bien entendu
pesantes. Et en plus, si on rajoute des règles... Mais c'est intéressant l'exemple des réunions amicales. Parce que justement, est-ce encore de l'amitié si on fixe des règles? En quoi, en fait, la multiplicité peut advenir? Si j'ai bien compris, selon le rhizome, qu'il y a de l'hétérogénéité, s'il y a des connexions inattendues, s'il n'y a pas de hiérarchie, puisque ça peut être autant de l'iris que du chien dent. Déjà, le groupe d'amis est a priori homogénéisé par des rires communs, par des idées communes, par des milieux sociaux. Et si en plus on ajoute des règles, on les solidifie et donc du coup, effectivement, on échappe au côté spontané, rupture, disruptif, on pourrait dire aujourd'hui, du rhizome.
Mais ça, c'est un aspect. C'est-à-dire, il y a un aspect qui est une sorte de solidification. Et en même temps, en permanence, cette solidification se défait au profit de quelque chose qui échappe. Hein, c'est ce que Deleuze et Guattari appelaient déjà dans l'Anti-Oedipe des lignes de fuite. Mais en même temps qu'il y a, pour certaines multiplicités, une sorte de solidification qui s'opère, cette solidification va par ailleurs se liquéfier pour produire des ruptures, des transformations, des déplacements de ce groupe en question, si on parle toujours de ce groupe social, qui peut se disloquer, qui peut se reformer autrement, qui peut avoir son élément un petit peu étranger qui entraîne le groupe vers quelque chose d'étrange. Donc tout ça reste toujours instable. C'est une stabilité toujours précaire.
En fait, ce qui intéresse Deleuze et Guattari, c'est de savoir comment, je vais partir de peut-être de manière un petit peu grossière, comment par exemple des individus qui n'ont rien à faire ensemble, malgré tout, à un moment donné, vont former une multiplicité.
Ça peut être ça, mais ça peut être aussi la mise en rapport de termes qui n'ont strictement rien à voir. Je ne sais pas, de la manière dont un peintre, par exemple, est saisi par l'importance du minéral. Je ne sais pas si vous prenez...
Ou par exemple, de la cuisine, un plat en cuisine. Comment on va... Ah, vous avez l'impression...
Non, je ne sais pas l'exemple, c'est pas l'exemple qui me serait spontanément venu, mais je pensais plus à des rencontres entre des termes qui n'ont strictement rien à voir. Au sens où, comme je disais à l'instant, un peintre qui va être attiré par le végétal, je sais pas, chez Mantegna ou chez Cézanne, l'importance de la poussée, pardon, pas du végétal, du minéral, la poussée du minéral comme quelque chose avec lequel la peinture doit nécessairement entrer en relation. Alors ça transforme le minéral d'un côté, ça transforme la peinture de l'autre, et voilà que tout d'un coup, ce qu'on pourrait dire la multiplicité qu'est la peinture et la multiplicité que sont les minéraux entrent dans une relation qui fait que la peinture se transforme et se déplace, et que les minéraux, eux aussi, se déplacent, et ça va former des œuvres, des toiles, etc.
On va écouter un extrait, David Lapoujade, justement, où il est question de ce plan de consistance que vous venez d'introduire, et justement des exemples aussi donnés de cette formation de multiplicité.
Si l'on considère le plan de consistance, on s'aperçoit qu'il est parcouru par les choses et les signes les plus hétéroclites. Un fragment sémiotique voisine avec une interaction chimique. Un électron percute un langage. Un trou noir capte un message génétique. Une cristallisation fait une passion. La guêpe et l'orchidée traversent une lettre. Ce n'est pas comme. Ce n'est pas comme un électron, comme une interaction, etc. Le plan de consistance est l'abolition de toute métaphore. Tout ce qui consiste est réel. Ce sont des électrons en personne, de véritables trous noirs, des organites en réalité, d'authentiques séquences de signes. Seulement, ils sont arrachés à leur strate, déstratifiés, décodés, déterritorialisés. Et c'est cela qui permet leur voisinage et leur mutuelle pénétration dans le plan de consistance. Une danse muette. Le plan de consistance ignore les différences de niveau, les ordres de grandeur et les distances. Il ignore toute différence entre l'artificiel et le naturel.
France Culture, avec philosophie, Géraldine Mosna-Savoie.
Extrait 2000, Plateau, capitalisme et schizophrénie, tome 2, paru en 1982, Deleuze et Guattari. Nous sommes ici dans ou sur le troisième plateau, je ne sais pas quelle est la meilleure préposition, qui s'intitule « 10 000 ans avant Jésus-Christ, la géologie de la morale ». Et c'est vrai que c'est une chose à signaler, ces 15 plateaux sont tous précédés de dates et associé à un concept. C'est-à-dire que là, le concept n'est pas une essence, mais plutôt un événement. Alors là, pourquoi 10 000 ans avant Jésus-Christ? Et pourquoi la géologie de la morale? Petit clin d'œil à la généalogie de la morale, j'imagine, de Nietzsche.
Oui, bien sûr. 10 000 ans avant Jésus-Christ, j'ai plus
que
le détail.
Que s'est-il passé ce jour-là, alors?
Non, l'idée importante, c'est de corréler les événements de corréler les concepts à des dates, c'est-à-dire à quelque chose qui advient. Et qui advient parce que des multiplicités se rencontrent et en viennent à constituer quelque chose d'extrêmement singulier qu'on appelle un événement. Donc effectivement, à chaque plateau correspond une date de formation du concept.
Alors ça, c'est intéressant. Par exemple, on parlait de groupes, d'individus, mais on entend aussi dans le texte, et puis vous l'avez dit, David Lapoujade, ça peut être comment se forment des multiplicités, quelles qu'elles soient. Là, on voit bien, en fait, ils le disent, hein, les choses et les signes les plus hétéroclites se rencontrent sur le plan de consistance. Donc ça va être un électron qui percute un langage, un trou noir qui capte un message génétique, une cristallisation qui fait une passion, la guêpe et l'orchidée. Je pense que là, effectivement, c'est très clair. On voit très bien qu'ils Il s'agit d'ensembles hétérogènes, mais qui, malgré tout, vont tenir et vont... Alors, est-ce qu'ils font événement? Est-ce que c'est un événement, ce que nous décrivent Deleuze et Guattari? Est-ce qu'en fait, ça, c'est une manière de percevoir le réel qui est courant, qui est tout le réel?
Courant, je ne sais pas, je ne pense pas. Je pense que c'est une philosophie assez originale de ce point de vue, mais qui appartient à une tradition existante, qui est de concevoir le réel comme composé d'événements qui adviennent. Toute la question, c'est de savoir comment ces événements en viennent à se produire. Effectivement, si vous voulez, si on essaye de remonter l'organisation générale de 1000 plateaux, la grande machinerie de 1000 plateaux, on part de ce plan de consistance où il y a des multiplicités qui n'ont aucune caractéristique, qui sont pas organiques, qui sont pas matérielles. C'est des multiplicités qui sont sans aucune spécification et qui vont progressivement, selon la manière dont elles se distribuent, dont elles se manifestent, hein, ce que Deleuze et Guattari appellent une machine abstraite. Donc elles vont entrer dans une sorte de machinerie abstraite comme ça, et cette machine abstraite va va produire des agencements concrets. Et alors tout ce que je viens de dire là, le plan de consistance, la machine abstraite, qui sont des concepts assez riches et complexes.
Qu'on trouve hein, chez Deleuze et Guattari.
Chez Deleuze et Guattari, ne correspondent à rien qui puisse être donné. Ce qui est donné, ce sont seulement, c'est-à-dire ce qui est présent dans l'expérience, ce qui est perceptible dans l'expérience, ce sont seulement ce qu'ils appellent des agencements concrets. Et les agencements concrets sont constitués de plusieurs caractères, de quatre caractères essentiellement. D'une part, les agencements concrets, ce sont des corps géologiques, corps organiques, corps sociaux, et d'autre part, ce sont, comme ils le disent, des régimes de signes. C'est-à-dire, ils expriment quelque chose par l'intermédiaire de signes, qui sont pas forcément, et qui sont loin d'être forcément des signes linguistiques, mais toute réalité est expressive, et en tant qu'elle est expressive, pardonnez-moi, elle émet des signes.
Donc le plan de consistance est comme en fait une manière de voir, de percevoir, de se mettre en tout cas au niveau de la multiplicité qui va être en train de se faire et avant qu'ait lieu l'agencement, c'est ça presque, ou en tout cas de voir l'agencement. Le plan, c'est-à-dire qu'il faut bien dire aussi que le plan de consistance dont il parle dans ce texte et que vous avez évoqué, David Lapoujade, c'est pas une planification, c'est pas un programme en fait, c'est le lieu, pourrait-on dire, à travers lequel ont lieu ces agencements.
Oui, alors oui, le plan de consistance est une sorte. Alors ils disent que c'est pas un programme, mais que c'est une sorte de diagramme. Donc, c'est-à-dire c'est une sorte de tourbillon de forces, de particules qui d'agitation comme ça. Et qui vont se distribuer et qui vont parfois former des programmes. Vous aurez un programme génétique, vous aurez un programme, etc. Donc, il y a toujours une sorte de lutte et de confrontation et parfois d'alliance entre le diagramme et le programme, c'est-à-dire entre ce qui obéit à une sorte, effectivement, de programmation et ce qui, au contraire, se dérobe à toute forme d'organisation et de programmation.
Et donc, les multiplicités sont toujours de l'ordre de cette spontanéité ou à l'inverse, voilà, certaines voilà, sont programmées, comme vous le dites.
Ben, elles sont... Alors, se produit à l'intérieur de ce schéma que j'ai rapidement dessiné quelque chose de supplémentaire qui est ce qu'ils appellent la stratification. C'est-à-dire, c'est une solidification dont on ne peut pas sortir, mais à l'intérieur de laquelle se produisent encore des lignes de fuite et des échappatoires éventuelles. Et les stratifications, elles sont au nombre, on pourrait le dire, de trois pour le dire grossièrement, c'est-à-dire la strate géologique, la strate organique, c'est-à-dire celle des formations vivantes, et puis la strate anthropomorphique, c'est-à-dire la strate des humains. Mais à l'intérieur de la strate des humains, vous avez encore beaucoup de strates. Vous avez la strate du langage, vous avez la strate des sociétés, puis les sociétés varient. Vous avez le capitalisme, mais vous avez les sociétés primitives, et puis vous avez les appareils d'État, vous avez les machines de guerre, vous avez quantité de strates, de stratifications, et puis c'est à l'intérieur de ces stratifications, de ces sortes de solidifications dont on parlait tout à l'heure, notamment lorsqu'on parlait des contractions d'habitude, eh bien vous avez inséparablement des processus de, comme ils le disent, de déstratification. Une manière d'échapper à ces strates, et par exemple, lorsque Deleuze et Guattari disent une passion amoureuse rencontre un trou noir, voyez, vous êtes sur une strate qui est la strate anthropomorphique de la passion amoureuse, et vous rencontrez quelque chose qui se situe sur une autre strate, qui est une strate cosmique, qui est la formation d'un trou noir. Et pour eux, il est manifeste que trou noir appliqué à la passion amoureuse n'est pas de l'ordre de la métaphore. C'est véritablement une sorte d'enfoncement dans une relation de perdition, d'une sorte de relation suicidaire mutuelle qui fait que tout se détruit au bout du compte dans une sorte de passion dévorante.
Ah ben là, j'ai bien compris, David Lapoujade. Et j'adore ce moment dans le texte où il parle d'une danse muette. Parce qu'on a vraiment là, effectivement, l'idée d'une danse, c'est-à-dire qui n'est pas programmée, qui n'est pas chorégraphiée à l'avance, mais qui en fait prend forme en même temps qu'elle a lieu et à laquelle aussi on pourrait complètement être aveugle ou en tout cas ne rien entendre. Donc il y a quand même peut-être presque une idée quand même à la fois d'ordre désordonné, c'est-à-dire il y a une chorégraphie qui n'est pas prévue, et puis il y a aussi un appel quand même à nous, à notre œil, c'est-à-dire il faut se rendre attentif aux agencements, à ce qui se passe autour de nous, c'est une sorte de conversion presque du regard. C'est ce que je disais tout à l'heure avec l'idée de la perception qui doit être quand même révolutionnée d'une certaine manière.
Tout à fait. Bah ça me permet de préciser de préciser un point, c'est que en même temps qu'il y a ces agencements concrets dont je parlais à l'instant, qui sont faits de corps et de régimes de signes. Il y a la machine abstraite qui les travaille sourdement et le plan de consistance, c'est-à-dire que tout ça est coprésent. Mais pour accéder à la machine abstraite et au plan de consistance, il faut effectivement une perception qui nous rende sensible à ce qui est imperceptible dans le donné, c'est-à-dire à des transformations, à des modifications qui relèvent de l'imperceptible et qui ont pourtant une puissance considérable puisque ce sont eux qui sont facteurs de transformation des corps sociaux.
Je vous propose, David Lapougeade, d'écouter tout de suite un extrait de Gilles Deleuze, bien évidemment, où il est question des agencements que vous avez évoqués.
Moi, je dirais un agencement pour moi. Je maintiendrai qu'il y avait quatre composantes d'agencement. Si on veut, je souviens. Mais un agencement, ça renvoyait à des états de choses. Que chacun trouve les états de choses qui lui conviennent un peu. Alors, pour boire, bon, j'aime tel café, j'aime pas tel café, les gens qui sont dans tel café, etc. Ça, c'est un état de choses. Aux dimensions de l'agencement, des énoncés. Des types d'énoncés, mais chacun a son style. Il a une certaine manière de parler. Dans le café, par exemple, il y a les copains, et puis il y a une certaine manière de parler avec les copains. C'est pas, chaque café a son style. Bon. Donc, un agencement comporte des états de choses et des styles d'énonciation. C'est très intéressant. L'histoire, elle est faite de ça. Quand est-ce qu'apparaît tel nouveau type d'énoncé? Par exemple, dans la Révolution russe, les énoncés de type léniniste, quand est-ce qu'ils apparaissent, comment, sous quelle forme? Et puis, ça implique des territoires. Chacun son territoire, il y a des territoires. Même quand on est dans une pièce, on choisit son territoire. J'entre dans une pièce que je ne connais pas. Je cherche le territoire, c'est-à-dire l'endroit où je me sentirais le mieux dans la pièce. Et puis, il y a des processus qu'il faut bien appeler de déterritorialisation, c'est-à-dire la manière dont on sort du territoire. Je dirais qu'un agencement comporte ces quatre dimensions. Des états de choses, des énonciations, des territoires, des mouvements de déterritorialisation.
La clarté de Gilles Deleuze, à côté parfois de certains textes de lui et Guattari, donc la clarté à l'oral et parfois l'obscurité à l'écrit, quand même cet écart est particulièrement frappant ici, David Lapougeade, puisque alors là, l'agencement, en 1 minute 38 secondes, il nous dit voilà les quatre composantes de l'agencement, ce qui nous permet de parfaitement les saisir, et on est même tenté de dire bah, en fait, il a tout dit là, Deleuze, qu'est-ce qu'on pourrait ajouter à ça? Il a parfaitement raison, en fait, le réel, c'est ça.
Et encore heureux qu'il ait raison au sujet du concept
qu'il a créé lui-même,
qu'ils ont créé tous les deux. C'est bien les quatre dimensions de l'agencement dont il est question d'ailleurs dans Mille Plateaux, c'est-à-dire des corps ou des états de choses, comme il le dit dans l'extrait, des régimes de signes ou des énoncés, et puis des phénomènes de territorialisation ou de déterritorialisation. C'est-à-dire la manière dont une multiplicité qui s'enracine quelque part va tout d'un coup commencer à migrer, à se déplacer. Et encore une fois, le processus est souvent imperceptible. Enfin, on voit bien que les mouvements sociaux, en général, personne ne les voit jamais venir. Ce qui peut laisser de l'espoir...
À une révolution
même
future.
Même si on en manque. Non, mais l'idée que, oui, voilà, c'est toujours imprévisible. On ne sait jamais ce qui peut arriver.
Quoi. Oui, mais ce qui veut dire aussi qu'il faut presque abandonner l'idée de volonté des individus.
Ben, la volonté va se greffer de toute façon sur ces mouvements, dans
on
les flancs d'une société.
On ne pourra pas décider d'un mouvement social.
Ben, dans les flancs d'une société,
mélange.
Quelque chose se prépare qui peut éclater à tout moment et ça sera le moment de l'événement. Mais cet événement, il était déjà présent dans sa préparation au niveau justement de cette machine abstraite et du plan de consistance, c'est-à-dire dans des particules sociales qui circulent d'individu à individu.
Dans et des puis, minorités aussi, il est très attaché à cette idée quand même de minorité. C'est pas le nombre en fait qui fait le mouvement.
Non, c'est le caractère non perçu socialement, non perçu qui fait que voilà et l'espoir, c'est que effectivement à un moment donné ça se mette à consister et que ça explose, enfin que ça prenne consistance dans le champ social et que ça produise de nouveaux corps sociaux.
En 1975, Deleuze et Guattari ont écrit Kafka pour une littérature mineure, c'est-à-dire que l'Anti-Oedipe c'était 72, Mille plateaux c'est 80. Entre-temps, ils continuaient à écrire des choses ensemble, dont ce Kafka pour une littérature mineure. Et c'est là où vraiment ce concept d'agencement va venir remplacer ce concept qu'on avait beaucoup dans l'Anti-Oedipe, qui était celui de machine. C'est-à-dire la machine, elle connectait, elle coupait, il y avait des flux. Là, l'agencement, il y a quelque chose de beaucoup plus fluide, d'emboîtement d'une certaine manière. Et ils disent dans ce texte que la tâche de l'écrivain et du philosophe, c'est de se rendre attentif à la rumeur de ces nouveaux agencements. Alors pourquoi être passé de la machine à l'agencement ? Pourquoi l'écrivain est peut-être le meilleur pour se rendre, s'ouvrir à cette rumeur des nouveaux agencements ?
Je crois qu'une des raisons pour lesquelles ils ont renoncé à la notion de machine désirante, c'est l'usage qui en était fait et la popularité même du concept. Je crois qu'ils voulaient se défaire de cette fixation que leur donnait la notoriété de ce concept, d'une part, et d'autre part, la notion d'agencement permettait qu'il y ait ouvrait sur une possible philosophie de la nature, parce que l'Anti-Oedipe, effectivement, parlait de la nature et parlait de l'histoire et de l'entrecroisement de l'homo natura et de l'homo historia, comme il le disait, mais Mille plateaux a une ambition bien plus considérable à certains égards, puisqu'il s'agit, encore une fois, de faire une philosophie de la Terre, de tout ce qui peuple la Terre. Mille plateaux, c'est l'ensemble de toutes les populations qui composent la Terre, population géologique, population organique, population humaine, population végétale, animale, etc. Donc, comment toutes ces populations entrent en relation les unes avec les autres, et la notion d'agencement était plus à même, il me semble, de saisir l'extraordinaire foisonnement de ces multiplicités que celle de machine désirante.
Et sur la tâche de l'écrivain ?
La tâche de l'écrivain, mais la tâche du peintre, la tâche du musicien, la tâche du philosophe, c'est effectivement, oui, d'être à l'écoute, d'être, l'oreille collée.
Et la tâche de ceux qui ne sont pas tout ça ?
Eh ben c'est leur tâche aussi.
C'est la tâche à tous.
Oui, c'est la tâche d'être sensible à tous ces mouvements, parfois auxquels on ne prête pas suffisamment attention, écrasés qu'on est par nos grosses perceptions, nos perceptions molaires, comme ils le disent, de pas être suffisamment sensible à tous ces petits aiguillons, toutes ces petites modifications qui nous indiquent pourtant des directions à suivre, des lignes de cheminement.
Alors c'est une des grandes distinctions qu'on trouve dans Mille plateaux, qui était déjà amorcée dès l'Anti-Oedipe, c'est mineur, majeur, moléculaire, molaire. Et effectivement, il y a ce terme, ce concept que vous avez employé à plusieurs reprises, David Lapougeade, qui est celui de ligne et qui permet en fait de formaliser, et c'est peut-être le chaînon manquant pour comprendre après le rhizome, le plan de consistance et l'agencement, la manière dont se forment les multiplicités, la manière dont peut advenir aussi de la nouveauté.
Alors une année, ici, on s'était concentré à ça, je crois qu'on a passé pas loin d'un an, à étudier les sortes de lignes qui composent quelqu'un. Qui composent quelqu'un au sens individu ou groupe, dans un champ social ou dans un champ historico-mondial. À la limite, on distinguait comme plusieurs types de lignes. On s'était beaucoup intéressé à une nouvelle splendide, parce que là aussi le délire n'est pas loin, une nouvelle très belle de Fitzgerald. Où il distingue, lui, il a tout un langage, tout un vocabulaire, où il distingue les grandes cassures, les petites fêlures et les vraies ruptures. Et finalement, on vit de ça. Et il essaie de montrer, il montre très bien que c'est trois sortes de lignes. Donc, je crois qu'il y a toujours chez tous les gens ces trois sortes de lignes, mais les unes qui avortent, les autres qui... Alors c'est presque une analyse des lignes, presque au sens de lignes de la main, sauf que c'est pas dans la main ces lignes. Moi, je ne comprendrais rien à quelqu'un si je ne peux pas le traduire dans une espèce de dessin linéaire. Avec, il faudrait trois couleurs, au moins trois couleurs, en fait beaucoup plus, et tracer les lignes dans lesquelles il se trouve. Et comment il débrouille. Hein.
Extrait d'un cours de Gilles Deleuze du 27 mai 1980, intitulé « Anti-Oedipe et autres réflexions ». C'était la première séance et on y entend cette formalisation de la ligne, de ce concept de ligne, à partir de nouvelles, notamment celle de Francis Scott Fitzgerald, « La fêlure », qui date de 1936, auquel Deleuze et Guattari consacrent un plateau entier, enfin d'autres nouvelles aussi, mais c'est le 8e plateau. La nouvelle, ce genre littéraire, leur permet de poser la question, David Lapougeade, de « Qu'est-ce qui s'est passé ?» C'est vrai que c'est là. c'est jamais aussi bien compris le genre littéraire de la nouvelle que grâce à Deleuze et Guattari, à savoir une nouvelle pose la question qu'est-ce qui s'est passé ? Pas tant pour remonter à une cause que pour voilà, essayer de se dire comment s'est formée cette multiplicité qui a conduit à de la nouveauté. En quoi la ligne, ça permet de dire cette nouveauté-là ou d'expliquer ce qui s'est passé ?
Je crois que le concept de ligne est particulièrement important pour eux. Ils en parlent d'ailleurs dès l'introduction au rhizome dont on a parlé tout à l'heure. C'est que ils opposent la ligne au point. Et le point, c'est le point ou la place ou la position. Et c'est une opposition, enfin c'est une manière de s'opposer à en partie au structuralisme qui concevait des structures, donc quelque chose qui pourrait être assez voisin de ce qu'on entend par rhizome. Simplement, la structure fonctionne à l'aide de points et de places, c'est-à-dire qu'on vient occuper une place dans une structure. L'idée qui est la leur, c'est au contraire de penser les existences, de penser tout en termes de processus, et les processus, précisément, ce sont des lignes. Une ligne est un processus, ou un processus est une ligne. Et les individus sont composés de lignes. Alors, il y a une variété de lignes, on est multilinéaire, comme il le dit dans l'extrait, et l'idée, donc, ce serait de dresser, comme ils le disent, des cartographies des individus, c'est-à-dire... Les cartographies, ce sont le tracé des lignes que suivent les individus. Alors, il y a des lignes, il y a trois types de lignes selon eux, mais en réalité, il y en a beaucoup plus, mais on pourrait les classer selon trois grands types. Il y a les lignes à segmentarité dure, c'est-à-dire qui sont des lignes la plupart du temps binaires. Vous êtes homme ou vous êtes femme, vous êtes employé ou au chômage, vous êtes adulte ou vous êtes enfant ou vous êtes vieillard. Enfin bref, ce sont des segmentarisations sociales assez figées.
Lignes molaires, on pourrait dire.
Des lignes, oui, des lignes molaires. Et puis vous avez, comme ils le disent, des lignes à segmentarité souple. Où là, ces frontières ou ces distributions binaires sont beaucoup plus souples. Vous passez d'un état à un autre. Il y a une fluidité beaucoup plus grande qui est celle.
C'est des lignes queer, un peu comme on pourrait dire.
Si vous voulez, on pourrait le dire comme ça.
Ou moléculaire.
Qui sont des lignes en tout cas où les binarités du premier type de ligne s'estompent ou circulent, où on peut jouer avec, disons. Et puis il y a un troisième type de ligne. Qui là est en prise directe avec tout ce qu'on a dit, c'est-à-dire le plan de consistance et la machine abstraite, qu'ils appellent les lignes de fuite, et qui sont à la fois des lignes de vie et en même temps des lignes qui peuvent être terriblement destructrices et fatales.
Donc c'est à la fois la nouveauté et la destruction en quelques secondes, ces lignes de fuite, c'est radicale nouveauté ou mort.
C'est le risque de la vie, c'est-à-dire la vie dans ce qu'elle a de plus intense et l'intensité peut parfois être trop dangereuse pour ceux qui sont traversés par elle.
Moi j'ai une toute petite ligne de chance, moi j'ai une toute petite ligne de chance, si peu de chance dans la main, ça me fait peur des lendemains. Ma ligne de chance, dis-moi chérie, qu'est-ce que t'en penses?
Ce que j'en pense, quelle importance, c'est fou ce que j'aime, ta ligne de hanche, ta ligne de hanche.
Ma ligne de chance,
j'aime la caresser de mes mains, ta ligne de hanche.
Ma ligne de chance,
c'est une fleur dans mon jardin.
Regarde ma petite ligne de chance, mais regarde ma petite ligne de chance, regarde ce tout petit destin, si petit au creux de ma main, ma ligne de chance.
Merci beaucoup David Lapoujade, on se quitte sur Ma ligne de chance de Anna Karina.
Merci à vous.
De vous on peut lire Deleuze, Les mouvements aberrants, disponible aux éditions de Minuit, Les cours de Deleuze sur Spinoza et sur la peinture que vous avez édité, disponible aussi aux éditions de Minuit et aussi aux éditions de Minuit parce que bon, pour lire Deleuze faut être aux éditions de Minuit. 1000 plateaux, c'est disponible dans ces éditions-là de Deleuze et Guattari, je le rappelle. J'en profite aussi pour annoncer que tout l'été sur France Culture, dès la fin juin, podcast, vous pourrez écouter Deleuze, retrouver 16 leçons de philosophie, 16 cours inédits de Deleuze archivé et restauré, et c'est produit par vous, David Lapoujade, avec Camille Renard et Thomas Jost à la réalisation. Et maintenant, c'est l'heure de retrouver le pourquoi du comment de Frédéric Worms.
Comment reconnaît-on la souveraineté ? La notion de souveraineté revient aujourd'hui d'une manière surprenante sous la forme de conflits à la fois traditionnels, bien connus et nouveaux. Par exemple, les conflits de souveraineté entre États pour des territoires qui redonnent lieu à quelque chose comme la guerre un peu partout. Un pays en envahit un autre, il réclame son territoire, il conteste sa légitimité, son exclusivité de droit sur ce territoire, de pouvoir sur ce territoire, ce qu'on appelle justement la souveraineté. La souveraineté, c'est donc le pouvoir exclusif de reconnu aux uns par les autres sur un objet vital, ici par exemple le territoire, une terre sur laquelle un groupe d'humains est reconnu comme légitimement doté d'un pouvoir exclusif. Mais la souveraineté vient aussi de nous aujourd'hui sur des objets nouveaux. Par exemple, on se bat aujourd'hui pour reconnaître une exclusivité sur des données numériques qu'on considère donc comme analogues à un territoire, comme un objet vital et sur lesquels, malgré leur circulation, tel ou tel groupe d'humains, un État en particulier, veut de nouveau reconnaître son exclusivité. Il y a en France une notion de souveraineté numérique qui a même fait l'objet d'un ministère. La souveraineté revient donc aujourd'hui au cœur des conflits humains, au cœur de ces conflits sur ce qu'il y a de plus vital et qui peuvent engendrer des destructions, elles aussi vitales ou mortelles. On se bat pour la souveraineté, on reconnaît ou on ne reconnaît pas la souveraineté. Peut-être est-ce le signe qu'il y a aujourd'hui non plus deux théorie traditionnelle seulement de la souveraineté, ou qu'il faut dépasser les deux théories traditionnelles de la souveraineté pour en arriver à une troisième. Quelles sont en effet ces deux théories ? La première théorie de la souveraineté, c'est celle de la transcendance. Pour fonder l'exclusivité d'un humain sur les autres, à propos d'un objet d'enjeu vital, par exemple l'obéissance ou le commandement, on en recourt à une légitimité transcendante. Le souverain, le roi, est investi par Dieu, par une doctrine théologique qui marque sa différence absolue avec les autres humains. Il y a cette bénédiction de la souveraineté qui fait l'exclusivité et qui se traduit, comme l'a montré Michel Foucault, par un pouvoir de vie et de mort. Le souverain, sanctionné par une transcendance métaphysique au-delà de la vie et de la mort, marque son pouvoir par celui de condamner ou de gracier d'une manière arbitraire, sans se référer à une loi qui le dominerait, puisque c'est lui qui est au-dessus de la loi et qui la crée. La contestation de ce modèle théologico-politique de la souveraineté est à l'origine de la modernité. On constitue alors par contrat social, collectivement, une autorité exclusive sur des objets vitaux délimités par des frontières. Le territoire est celui de l'État qui a l'exclusivité de la ressource vitale, de l'exploitation de ces terres et aussi, bien sûr, des lois entre les humains. Mais aujourd'hui, il y a peut-être encore un troisième modèle de la souveraineté à inventer. Un modèle, évidemment, qui légitime une exclusivité sur des enjeux vitaux, mais en quelque sorte d'une manière plurielle. Dans les États eux-mêmes, les citoyens ont la souveraineté sur ce petit territoire de vie et de mort qu'on appelle leur corps. Le droit des patients à décider de ce qui concerne leur corps est une souveraineté individuelle dans la souveraineté collective. Comment la reconnaître ? C'est sans doute la question de la souveraineté démocratique. Et puis, au-dessus de la souveraineté d'un État sur son territoire, il y a sans doute des règles qui règlent les questions de vie et de mort entre les humains au niveau international ou global. Il y a bien sûr non pas une souveraineté des humains sur la planète, mais des limites à la souveraineté d'un État individuel pour préserver la planète commune. Et de même, pour régler les conflits territoriaux, pour régler les guerres sans fin entre les humains, faut-il des arrangements entre les souverainetés ? Faut-il la reconnaissance mutuelle des humains dans la planète et des États les uns par les autres ? Le problème de la souveraineté revient aujourd'hui. La guerre en est le signe. Il y faut des solutions nouvelles.
Merci Frédéric et merci à toute l'équipe, Armance Bourquin, Anna Felpin, Carla Michel, Shaima Giboire et Nassim El-Kabli, à la réalisation Louise André, à la prise de son Noé Chaban. Pour retrouver toutes les émissions d'Avec Philosophie, rendez-vous sur le site de Radio France et sur l'application Radio France.